O'Reilly.
You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast. No matter what you need, we have thousands of professional parts people doing their part to make sure you have it. Product availability. Just one part that makes O'Reilly stand apart. The professional parts people.
O'Reilly Auto Parts.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure. C'est avec plaisir que je vous présenterai toute cette émission. Donc une heure de relaxation, de musique et d'actualité dans notre programme en français en ce samedi. Et on débute comme chaque semaine avec notre petit retour en arrière, notre rétrospective du jour.
La rétrospective du jour, messieurs, dames, et on remonte aujourd'hui au 23 mars 1998, il y a 26 ans, jour pour jour, lorsque le film Titanic raflait 11 Oscars, rien que ça. Valentine Saboureau nous emmène donc aujourd'hui aux côtés du réalisateur James Cameron, le soir donc où il a reçu la consécration du tout Hollywood pour son film, on le rappelle, Titanic. Il faut dire que la production du long métrage n'a pas été un long fleuve tranquille. Récit avec les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel et de Combini.
Ce n'est pas un naufrage, mais un véritable raz-de-marée de récompenses qui déferle sur Titanic en cette 70e cérémonie des Oscars, le 23 mars 1998. À l'égal de Ben-Hur, en 1960, le long-métrage remporte en effet 11 statuettes, parmi lesquelles les prestigieux Oscars du meilleur film et du meilleur réalisateur. C'est une consécration pour James Cameron, qui a tout donné pour terminer cette œuvre fleuve de 3h15, dont certains pensaient qu'elle n'arriverait jamais à son terme. Passionné de plongée, James Cameron est si fasciné par le Titanic qu'il décide d'en faire un film qui mêlerait des allers-retours entre le passé et le présent et s'articulerait autour d'une grande histoire d'amour. Il vend d'ailleurs rapidement l'idée à la Fox en expliquant que ce sera Roméo et Juliette sur le paquebot le plus célèbre du monde. De tournage est particulièrement épique. Pour les besoins du film, outre les effets spéciaux ultra sophistiqués pour l'époque, le navire a été reconstitué à 90% de sa taille réelle et plusieurs expéditions sur la véritable épave sont organisées. Le budget naturellement explose, passant de 110 à 200 millions de dollars. Les scènes éprouvantes tournées dans l'eau, un empoisonnement lors d'un dîner d'équipe, une brouille entre Cameron et ses cascadeurs, tout cela affecte la durée du tournage qui passe de 138 à 160 jours. C'est un cauchemar pour beaucoup, y compris le réalisateur lui-même.
Effrayé, oui, au début. J'ai eu peur de ne pas y arriver. C'était un si long film. Et pendant le tournage, j'ai maintes fois pensé couler comme le Titanic.
Finalement, le film sort en décembre 1997 et c'est un succès. Explication express du cinéaste Xavier Dolan pour Combini.
D'abord, premièrement, c'est un film dont les effets spéciaux ont été exécutés presque entièrement et pratiquement sur le plateau. Le scénario est impeccable. La notion de James Cameron de l'excitation, du mouvement, de la sensualité, de la sexualité, de pouvoir rendre des plans de caméra pratiquement érotiques, c'est-à-dire des coupes du genre « la jeune femme sur le dessin, c'est moi ». Paf ! On coupe.
Le 23 mars 1998, la 70e cérémonie des Oscars a lieu. C'est l'acteur Billy Crystal qui anime la soirée. Voici son introduction.
Well, good evening, and welcome to the Titanic. We are just like that great ship. We are huge, we are expensive, and everybody wants us to go a lot faster. So we will try to do that tonight. Are you ready to go to a real party?
Nominé dans 14 catégories, Titanic emporte tout, presque avec un record de 11 statuettes récompensant les meilleurs films, réalisateurs, direction artistique, prise de vue, musique, chanson originale, montage, son, effets spéciaux sonores et costumes. Ce soir-là, James Cameron a tout simplement l'impression d'être le roi du monde et il le dit lui-même en recevant l'Oscar du meilleur réalisateur.
Mom, Dad, there's no way that I can express to you what I'm feeling right now. My heart is full to bursting, except to say, I'm the king of the world!
Il faudra attendre le troisième volet du Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, pour qu'un film fasse aussi bien en termes d'Oscar. En mars 2004, le film de Peter Jackson obtient en effet lui aussi 11 Oscars sur 11 nominations.
Arthur H et M, le duo de choc de la chanson française. Cette chanson, El Magnifico, qui fait partie de notre sélection musicale pour ce mois de mars. Vous écoutez le programme français, vous êtes sur Radio SBS, on fait une courte pause et on se retrouve dans la suite de notre programme dans quelques instants. Les magazines des sports aujourd'hui, la station de ski de Métabier qui regarde en face la fin annoncée des sports d'hiver avec le réchauffement climatique. On sait que c'est une des problématiques dans les Alpes et les Pyrénées françaises. Et avec plus de 53 millions de journées skieurs, la France est la deuxième destination mondiale pour le tourisme hivernal. C'est une manne économique qui aujourd'hui est menacée, je vous le disais, par le réchauffement climatique car il entraîne de la baisse de l'enneigement et en particulier en basse et moyenne montagne. Alors que la Cour des comptes pointe du doigt le manque d'anticipation de la plupart des stations françaises. Les sages mettent en avant le travail d'adaptation et la mise en place par une petite station dans le Jura. Elle s'appelle Métabier. Reportage.
Donc là, on se trouve sur le front de neige du bas des pistes de Métabier, la station de Métabier, dans le Haut-Doubs. On est le 4 mars et c'est actuellement presque tout vert. Il reste quelques taches de neige par-ci, par-là.
Pour le chef des pistes Sylvain Autier, cet hiver catastrophique confirme ce que projettent les scientifiques pour la station de Métabier. La baisse drastique de l'enneigement et la fin du ski alpin d'ici 2030-2035. C'est un crève-cœur pour les natifs de cette montagne. Mais la station regarde les choses en face. En 2020, elle a acté qu'elle n'investirait plus dans de nouvelles remontées mécaniques ni dans de nouvelles infrastructures pour fabriquer de la neige artificielle. Olivier Erard, directeur du syndicat mixte qui gère la station.
Ça a été vraiment, vraiment un très très grand renoncement, hein, puisque c'est vraiment à l'envers de la culture de cette industrie-là, hein, où on est toujours dans la performance, toujours plus de productivité, plus de volume, etc.
La maintenance des installations doit les faire durer au maximum, le temps que Métabier fasse sa transition. Pour attirer les vacanciers toute l'année, la station a renforcé son offre vélo, rénové une luge sur rail, elle développe le trail, la randonnée. Mais rien ne remplacera le poids économique du ski alpin, assume Delphine Grézard, responsable ressources humaines.
Le VTT, ça n'attirera jamais l'éventail de population qu'a attiré le ski. Le VTT, simplement même géographiquement, on a des pistes où on peut n'être qu'en individuel, descendre l'un après l'autre, alors que le ski... C'est des espaces énormes qui peuvent accueillir beaucoup plus de personnes. Il faut faire le deuil de ça.
Le pari est donc d'élargir le périmètre et de trouver des sources de revenus touristiques ailleurs dans le territoire. Claire Le Boisselier, chef du projet Transition Touristique du Haut-Doubs.
Sur ce territoire, on a des pépites, on a des lacs, on a des forêts qui sont magnifiques, il y a un château, aussi tout un patrimoine gastronomique. Et donc on s'est dit... Sur ce territoire, finalement, c'est ça qui va compenser le reste.
La méthode Métabier, c'est aussi d'embarquer des acteurs de terrain, des élus, des entrepreneurs, des associations, en organisant la co-construction des solutions à l'échelle du territoire. Mais ce n'est pas facile. Jérôme Gresset a ajouté une offre vélo dans son magasin de sport. Mais cet hiver, il n'a fait que 30% du chiffre escompté.
C'est un petit peu l'incertitude. On met tout en place pour se diversifier et puis faire une transition. Après, aujourd'hui, on n'est pas encore une fois prêt à se passer complètement du ski alpin aujourd'hui, quoi.
20% des acteurs de la station se sont déjà lancés dans cet effort d'adaptation. Il faudra à l'avenir élargir bien au-delà.
Et c'était Gilles Kaplan avec cette chanson La Daronne qui fait partie de notre sélection musicale. Si vous ne parlez pas l'argot français, voire l'argot parisien, une daronne, c'est une maman en argot, donc bien franco-français. Chanson de Gilles Kaplan, encore une fois, qui fait partie de notre sélection musicale en ce mois de mars. Allez, courte pause, on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes bien entendu sur Radio SBS. À tout de suite.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBSFrench.
Europa Voice numéro 136, et comme à l'accoutumée, je suis Christophe Mallet, je vous présente cette émission avec mon acolyte Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe, ravi de te retrouver.
C'est beau comme mot acolyte.
C'est très beau comme mot.
On peut faire une réflexion là-dessus, on va parler d'acolyte d'ailleurs pour la France, pour l'Europe et la Suisse. Ça va être notre premier sujet, et en deuxième sujet on parlera de l'Égypte et un accord à coût de milliards pour l'Union Européenne. Ce sera la deuxième partie donc de cette Europa Voice, mais tout de suite on commence avec la Suisse. Suisse, qui est un pays vraiment physiquement, alors au cœur de l'Europe, hein, je pense qu'on peut pas être beaucoup plus au centre de l'Europe aujourd'hui que la Suisse. Pourtant, c'est un pays qui n'est pas au sein de l'Union européenne et c'est un pays qui a longtemps tergiversé sur sa relation même avec l'Union européenne. Ça pourrait changer.
Effectivement, Christophe, l'Union européenne et la Suisse entament des nouvelles, et j'insiste sur ce mot, nouvelles négociations pour approfondir leurs relations bilatérales.
Des nouvelles et des énièmes négociations, ça fait un moment comme ça discute.
Alors effectivement, la Suisse et l'Union européenne avaient un peu rompu les discussions en cours en 2021. Il faut savoir que si la Suisse n'appartient pas, Christophe, à l'Union européenne, il y a des accords bilatéraux entre l'Union européenne et la Suisse.
Des accords qui faisaient rêver les Britanniques au moment du Brexit. On a beaucoup parlé à ce moment-là.
Exactement. Il y a un peu un côté, en fait, avec ces accords. Je suis désolé de simplifier, mais c'est une bonne image, je pense. Il y a un peu un côté le beurre et l'argent du beurre.
Le beurre suisse, d'ailleurs.
C'est-à-dire qu'en fait, il faut trouver un terrain d'entente parce que la Suisse ne peut pas profiter pleinement des faveurs et des largesses de l'Union européenne s'il n'y a pas de contrepartie. Donc c'est très difficile en fait de négocier ces accords bilatéraux. La première chose, Christophe, c'est que ces accords bilatéraux évidemment concernent un certain nombre de domaines, de secteurs qui sont à chaque fois spécifiques au pays. Et puis ils prennent en compte aussi les réalités, j'allais dire, géographiques et démographiques dans le cadre de la Suisse, puisque par exemple, pour notre voisin helvète, il y a tout l'aspect des travailleurs transfrontaliers qui est à prendre en compte.
Alors ça, je pense qu'aujourd'hui, en France, quand on habite en Savoie, en Haute-Savoie, dans le Jura, et qu'on est un fameux transfrontalier, on doit transpirer à l'idée même de penser que la Suisse pourrait revenir dans l'Union européenne, parce que c'est un statut très particulier et souvent très avantageux quand même.
Bah, il y a un côté pouvoir d'achat, en fait, hein, pour encore une fois, pour nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS. Le fait qu'un travailleur transfrontalier, par exemple, habite en France, mais soit payé et travaille en Suisse, évidemment, ça a plein d'avantages, choses qui sont amenées à changer dans le cadre d'un approfondissement des relations bilatérales, choses qui aussi sont amenées à changer parce que on parlait dans notre précédent numéro de Europa Voice du plombier polonais, mais pour les Suisses, en l'occurrence, le plombier français. Il est français, exactement, Christophe. Mais ça recouvre aussi, enfin, il y a ces accords et il y a ces progrès dans ces accords bilatéraux parce que la Suisse et l'Union européenne, il y a une réalité. Hein. En fait, on ne s'en rend peut-être pas bien compte, mais l'Union européenne, ça c'est un peu évident, est le premier partenaire commercial de la Suisse, bien sûr, mais la Suisse est aussi le quatrième partenaire de l'Union européenne. Et ça, oui, je pense énorme, que trop peu de gens le sous-estiment. C'est-à-dire que l'Union européenne a aussi besoin, Christophe, de la Suisse par cette position géographique particulière qui va de l'Alsace à la Savoie en termes de frontières.
Et pas simplement pour des produits financiers. La Suisse, c'est aussi beaucoup d'ingénierie, c'est beaucoup de technologie de pointe, voire de très haute pointe, si on peut s'exprimer ainsi. La Suisse, enfin, les deux entités ont besoin d'elle, de l'une de l'autre, en fait. Ça, c'est une réalité d'aujourd'hui.
C'est une réalité, effectivement. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est pour parler ces discussions. On a effectivement tout de suite en tête le monde de la finance, peut-être le luxe, mais c'est sur bien d'autres secteurs que ces discussions ont lieu en ce moment. C'est sur les questions de l'électricité, par exemple, la question des transports terrestres, la question de la libre circulation des personnes.
L'agriculture.
Donc en fait, on est aussi sur des domaines, j'allais dire, qui vont un peu au-delà du simple cliché de pourquoi la France ou l'Union européenne et la Suisse entretiennent des relations de commerce et bilatérales.
Alors quand on pense, nous, à la France, forcément, on pense à la Suisse francophone. La Suisse est quand même grandement un pays germanophone, un petit peu germanophobe d'ailleurs, on peut en parler, mais quelle est justement la relation entre la Suisse et l'Allemagne et est-ce que ça peut influencer une certaine balance au sein de l'Union européenne? Aujourd'hui, on parle beaucoup du couple franco-allemand. Qu'est-ce qu'il en est du couple allemano-suisse? C'est une relation qui doit être aussi difficile. Où est-ce qu'il y a une notion de grand frère à petit frère? Comment ça se passe?
Il y a une notion. Il y a la notion du plombier allemand. Français, elle est aussi vraie pour le plombier allemand. Elle est vraie aussi pour le plombier italien, parce qu'il y a une partie de la Suisse italophone. Il y a une grande frontière. Avec
des lacs superbes, hein, si vous êtes allé. Enfin,
et puis une des montagnes les plus belles et les plus grandes d'Europe, le Cervin,
qui fait
la séparation entre Cervinia et Zermatt, voilà, pour les amateurs de montagne. La réalité aussi, est, parce que votre question elle est sur la géographie, pour nos auditeurs d'Europa Voice, et ça fait le lien d'ailleurs avec notre épisode précédent sur la Bosnie-Herzégovine, si vous prenez en face de vous une carte de l'Europe, à l'heure actuelle, comme il y a des discussions avec les pays des Balkans occidentaux, qui sont en fait la dernière discontinuité géographique dans l'Union européenne, puisque à l'est on a la Bulgarie, la Grèce et la Hongrie, à l'ouest on a la Slovaquie, la Slovénie et l'Autriche, et donc il y a une espèce de petite montagne où il y a les 6 pays des Balkans. Si ces 6 pays des Balkans, comme ça semble être le cas, vont accéder dans les prochaines années à l'Union européenne, le dernier pays au sein de cet ensemble politique mais géographique qui va du Portugal à la Russie, le dernier pays qui n'appartiendra plus à l'Union européenne, ce sera la Suisse.
Le fameux village gaulois suisse. Hein.
Exactement, ce fameux village gaulois suisse. Donc, il y a aussi cette question, effectivement, de... Je crois que c'est très lié, hein, ça peut paraître lointain, mais c'est très lié, en fait, le fait qu'il y a eu un fast-track ukrainien, qu'il y ait une accélération de tous ces pays des Balkans occidentaux qui étaient dans l'antichambre de l'Union européenne pendant près de 10 ans et qu'il nous reste encore ce petit village suisse, dernier pays potentiellement à ne pas encore appartenir à l'Union européenne. Ça explique aussi pourquoi il y a une proactivité de l'Union européenne d'entamer ces discussions, de continuer ces discussions. Et puis, peut-être aussi deuxième élément, Christophe, il y a les élections européennes encore en juin. Et il y a, à l'inverse de la technique de la terre brûlée, Ursula von der Leyen qui veut faire tous les coups et les meilleurs coups possibles avant de se représenter. Et donc, effectivement, aussi conclure ces accords bilatéraux dans le long terme, qui ne mangent pas spécialement de pain, enfin qui ne sont pas tellement risqués en fait finalement à court terme, bah, c'est aussi une manière pour elle de dire bah, voilà, j'ai aussi fait avancer ce dossier de l'intégration, de l'élargissement avec des partenaires essentiels pour l'Union européenne.
Et à Berne, on en pense quoi? On est parce que c'est vraiment, pour ceux qui connaissent la Suisse ou qui connaissent pas la Suisse, hein, mais c'est un pays qui est un peu atypique dans le sens où il y a vraiment on sent qu'on est au sein de l'Europe. Par contre, on est assez fiers de pas être au sein de l'Europe. Il y a vraiment cette ambivalence du côté suisse, et ça va peut-être jouer. On parlait du côté allemand, du côté c'est aussi une division au sein du pays. Je pense que quand on est francophone, on est peut-être un peu plus porté vers l'Europe que quand on est germanophone. Il y a une vraie division politique, mais à la fin du jour, hein, at the end of the day, comme on dira en anglais, la Suisse, c'est dirigé par les germanophones. C'est Berne, c'est une ville germanophone. Les Suisses romands ont un peu moins à dire que les Allemands, quand même, politiquement en Suisse.
Bah, il y a un aspect, effectivement, où.
Le pouvoir, on voit où il est, en tout cas.
Effectivement, il y a toujours un leadership du pouvoir germanophone en Suisse. Il y a aussi une réalité, politique locale. D'abord, c'est le système de votation,
ouais.
Le système de référendum, donc c'est-à-dire demander, en fait, aux habitants.
Référendum
leur avis.
Populaire.
Voilà, il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort dans cette espèce de démocratie directe, qu'on pourrait appeler aussi participative, qu'on essaye des fois de distiller en France notamment. Bah, c'est beaucoup plus vrai en Suisse. Hein, les questions de référendum, on avait beaucoup parlé en France à l'époque sur des sujets notamment liés aux religions, assez vendeurs dans les journaux. Et puis, il y a aussi une réalité politique, d'un échiquier politique qui est plus à droite. Et donc, on a déjà eu des premières réactions, par exemple, de l'Union démocrate du centre, qui contrairement à ce que son nom indique est plutôt une formation de droite radicale et qui est le premier parti politique de Suisse, a déjà signifié en fait qu'elle dénoncerait ce que eux appellent, hein, cette union démocratique du centre, cette soumission totale de la Suisse à l'Union européenne. Donc c'est pas gagné, parce que là c'est des accords, il faut encore que ça passe devant les élus suisses, qu'ils parlent au référendum et l'acceptation populaire. Et donc effectivement, le côté un petit peu conservateur, plutôt germanophone, allemand, peut faire que ces accords et ces projets bilatéraux restent lettre morte in fine et qu'on continue simplement à avoir cette espèce de réalité entre les deux pays, parce qu'il faut bien, entre les deux ensembles, la Suisse et l'Union européenne, parce qu'il faut bien cohabiter, parce que les frontières sont communes et parce qu'il y a encore une fois, une réalité sur le terrain de ces travailleurs transfrontaliers, de ces échanges de biens et de personnes et l'importance de ce partenariat commercial entre l'Union européenne et la Suisse.
Et la neutralité suisse a été légendaire aujourd'hui, donc peut-être elle perdurera dans le temps, de cette neutralité non européenne n'appartenant à aucune entité, mais faisant du commerce un peu avec tout le monde. C'est un peu dans l'ADN des Suisses, ça, quand même, aussi.
Oui, mais la neutralité, Christophe, c'est aussi quelque chose qui peut changer. Hein. Après 30 ans de neutralité, oui, suédoise par rapport à l'OTAN, on l'a bien vu, ce revirement. Donc si la neutralité suédoise est capable d'évoluer, est-ce que la neutralité suisse, de la même manière que le secret bancaire suisse, a aussi évolué? À voir de très près.
Sans connaître les raisons qui ont poussé cet homme à vivre dans une autre ville, on l'estime comme quelqu'un de toujours poli, qu'il soit heureux ou qu'il soit triste. Sans donner d'importance à la chance de voir cet homme ce soir, qui rentre un peu moins tard. Ses enfants aiment leur père avec une impatience qui le laissera vieillir juste après leur enfance.
enfance.
Alors, si tapez pas des pieds en écoutant cette chanson, un homme extraordinaire des Innocents, une chanson tirée un petit peu de nos archives, hein. C'est une chanson qui est sortie il y a un petit moment, mais une bien belle chanson si vous êtes au volant, c'est vraiment la chanson parfaite pour conduire, à mon avis. Un homme extraordinaire donc des Innocents. Allez, courte pause, on se retrouve dans quelques instants, vous êtes sur le programme en français sur Radio SBS. À tout de suite.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Allez, petit détour dans nos archives. En 2008, Daniel Kemp recevait dans l'émission, dans son émission à l'époque, avec Jean-Noël d'ailleurs. Jean-Noël Lucas travaillait déjà à cette époque-là dans notre programme. Eh bien, Daniel recevait le grand Claude Lelouch, le réalisateur français, au plus de 50 films maintenant. Et c'était son anniversaire. Vous allez voir, il y a eu une belle surprise pour lui dès le début de cet entretien, donc avec Claude Lelouch et Daniel Kemp.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Et on va commencer avec un bon anniversaire, Claude Lelouch.
Merci, ça me fait très très plaisir, ça me touche beaucoup, merci.
Et on a trouvé que c'était quand même une trouvaille, que ça soit le jour de votre anniversaire. Je voulais vous dire, je n'ai pas vu tous vos films, mais j'ai vu un très grand nombre d'entre eux. Je vous suis depuis très longtemps, j'ai rencontré Marie-Sophie, elle, lorsqu'elle est venue en Australie. Oui. Et j'ai suivi aussi les films. Et je crois qu'il y a eu un certain nombre de films qui m'ont énormément touché. Bon, Un homme et une femme a été incontestablement un tournant décisif avec la séquelle de 20 ans après. Il y a eu Les uns et les autres qui était la première grande fresque et puis La belle histoire. Mais il y a eu aussi Les Misérables, il y a eu Tout ça pour ça. Et on reconnaît une sorte de style. Il y a quand même des continuités, il y a naturellement des trouvailles. Mais je crois que ce film, celui que vous présentez maintenant, Roman de gare, est probablement un des plus accomplis.
Oui, oui, en tous les cas, c'est un film que j'adore. Et vous savez, j'ai fait 41 films et je le dis, je crois que j'ai fait des brouillons. On a des jolis brouillons, de beaux brouillons. Et puis un jour, il faut mettre au propre. Voilà, donc le moment est venu pour moi maintenant de mettre au propre tout ce que j'ai appris. Donc j'espère que mes derniers films seront plus aboutis que les autres. Mais il a fallu faire les autres pour pouvoir faire cela, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un voyage très long, je pense qu'il faut une vie entière pour réussir un film, voilà. Donc je vais consacrer ma vie entière, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, pour un jour réussir le film dont j'ai rêvé, voilà.
Ça me fait penser à la quête du Graal, oui. En quelque sorte, ou la quête de l'absolu, de la perfection.
Oui, on cherche tout ça, en tous les cas, moi c'est ce que je cherche, mais je sais qu'il m'aura fallu une vie entière pour trouver ce que je cherche d'abord, et puis j'ai consacré ma vie au cinéma, j'aime le cinéma par-dessus tout, et donc voilà, alors j'espère que les derniers films que je vais avoir la chance de faire...
Oh oui, on ne vous laisse pas partir. Vous savez, j'ai trouvé ce film absolument incroyable et je vais vous poser les questions naturellement. Je pensais que vous aviez votre vie dévouée au cinéma et vous avez aussi écrit un livre ces années-là, Claude Lelouch.
Qui est en train de sortir en ce moment-là, oui.
Donc nous allons aussi l'acquérir et on pourra peut-être avoir une autre interview à ce sujet.
D'accord.
Alors je vais vous dire comment j'ai compris ce film. D'abord les thèmes, la tendresse, la colère, le mystère, le suspense, l'humour, l'amour. Mais la traduction en anglais était plus proche du titre du film en français pour moi, dans ma compréhension. Quand il parle par exemple de « crossed tracks », moi je voyais « destin croisé ». D'ailleurs, ça a été le concept que j'ai tout de suite vu dans ce film.
Oui, tout à fait. Mais vous savez, tous mes films parlent de la même chose, c'est-à-dire de ces hasards et de ces coïncidences qui font qu'à un moment donné, nos vies sont ce qu'elles sont. Moi, je pense que ces hasards et ces coïncidences sont tout sauf des hasards et des coïncidences. C'est le résultat de mathématiques de très très haut niveau que nous ne sommes pas capables de calculer, mais le fait d'aller d'un rendez-vous à l'autre, les ricochets de la vie, c'est ce qui fait le charme de la vie. Moi, je ne sais pas qui a rempli mon agenda à ma naissance, vous voyez, mais je ne me suis pas ennuyé une seconde, car chaque rendez-vous, chaque personne m'a amené là où j'aurais jamais eu l'idée d'aller. Donc c'est ça, c'est comme ça que je construis mes films. Puis je ne cesse de répéter que mes échecs m'ont plus fait grandir que mes succès, quoi. Tout ce que j'ai réussi dans ma vie, je l'ai d'abord raté. Et donc, c'est ça que j'essaie de dire dans mes films. C'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est que l'échec est la plus grande université du monde.
Claude Lelouch, je vais vous dire comment je l'ai compris, ce film. Et pour moi, je crois que c'est un des plus aboutis pour beaucoup de raisons. Parce qu'il y avait toutes ces émotions, d'une part. Mais c'est aussi un thriller. C'est aussi un film à suspense. C'est un film qui nous fait un peu trembler. Il y a cette phrase un peu énigmatique où on s'imagine que peut-être la voix off est en train de nous raconter une histoire d'un roman ou où lorsqu'on a ouvert la première page, on ne peut pas le reposer jusqu'à la dernière page. C'est exactement l'effet que ça m'a fait, ce film. Et pourtant, c'était après une journée de travail, sur un petit écran. Et puis alors, naturellement, j'ai eu du mal à dormir après, parce qu'il y avait tout un tas de choses qui se promenaient dans ma tête. Tout le monde dit la vérité dans ce film au départ, mais elle paraît si absurde que personne n'y croit.
Bravo, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est un film sur les apparences. C'est un film sur les apparences et on vit dans un monde où les apparences sont trop importantes. Je veux dire que la publicité, les médias, la façon de s'habiller, de se maquiller, je veux dire qu'on essaye de faire croire autre chose que ce que... Vous voyez, on essaye de vendre aux autres autre chose. Donc c'est à partir de ce concept que j'ai construit ce film. En plus, je raconte dans ce film un peu aussi comment je raconte des histoires, comment je m'inspire de la réalité. Moi, si je vois à 3h du matin une femme qui est plaquée sur une autoroute, ça m'intéresse, vous voyez, ça m'interpelle. Je reste là et je continue pas ma route, je l'observe. Donc je me suis nourri toute ma vie de cette curiosité. Je suis avant tout quelqu'un de très curieux et le spectacle de la vie, c'est mon fonds de commerce. Hein. C'est là où je pioche toutes mes idées, mais... Je pense que c'est intéressant dans mes films, c'est que toutes les histoires que je raconte ont un fond de vérité. Vous voyez, je me suis toujours inspiré de ce grand scénariste qu'est la vie, quoi. Je veux dire que j'essaye de l'imiter. Vous voyez, j'essaye d'imiter le fonctionnement de cette vie qui va de surprise en surprise, qui se comporte comme une aventurière. Je veux dire, la simple observation de la vie est un spectacle dont je me lasse pas. Vous voyez, dont non seulement je m'en lasse pas, mais en vieillissant, je suis de plus en plus enthousiaste. Vous voyez ce que je veux dire, j'ai le sentiment de rajeunir. C'est fou, le spectacle de la vie me donne le sentiment d'être de plus en plus jeune et de plus en plus naïf. Voilà. Donc, Roman de Gare, c'est un film qui ressemble à la vie, telle que moi je la vois, telle que je l'appréhende. C'est-à-dire, on me raconte des histoires et puis j'essaie de trouver la vérité. Les gens disent des tas de choses. Ce qui est intéressant, c'est pas ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils pensent. Vous voyez.
Et comment ils réagissent, les émotions qui sont à fleur de peau, avec des mots qui n'ont absolument aucun rapport avec ces émotions? Et les mots, c'est le masque presque.
Ouais.
Sauf la colère, là, d'un des personnages.
Ouais, et puis tout ça, c'est pour trouver l'autre, hein, finalement.
Oui, c'est pour trouver l'autre. Et vous avez parlé, vous savez, de cette mathématique est extraordinaire, des coïncidences qui n'en sont pas. Et il y a une merveilleuse formule, d'ailleurs en anglais comme en français. Les coïncidences sont la signature de Dieu qui se veut anonyme.
Oui, tout à fait.
Et en anglais, it's God's way of being anonymous.
Bien sûr, c'est tout à fait ce que je ressens profondément, quoi. Tout à fait. Et il a drôlement raison de rester anonyme et de nous laisser là dans l'expectative. Vous savez, ce film explique que la vie est un tour de magie. D'ailleurs, vous avez vu l'importance du magicien dans le film, puisque...
Oui, c'est un leitmotiv.
Voilà, et c'est un leitmotiv, mais la vie est un tour de magie. Je veux dire que si Dieu existe et il existe, c'est avant tout un magicien. Et je veux surtout pas qu'il nous explique son truc.
Oui, il faut garder le mystère.
Bah, évidemment, évidemment. À chaque fois que des magiciens m'ont expliqué leur tour de cartes, j'ai été déçu. Oui.
Absolument.
Donc, ce qui fait qu'on croit en Dieu, c'est qu'on croit à la magie. Mais on sait très bien qu'il y a des trucs. Et donc, si Dieu existe, il a forcément un truc aussi. Mais ouais, ce truc-là, j'ai pas envie de le connaître.
Exactement. Et garder le mystère nous permet justement de nourrir cette curiosité. Et ce que Miloche appelait le regard de la première fois sur les choses de tous les jours.
Absolument. Vous savez, dans les histoires d'amour aussi, on a trop tendance à vouloir connaître les trucs de l'autre. Et dès que l'autre nous explique ses trucs, on cesse de l'aimer, vous voyez ce que je veux dire. C'est pareil.
Oui.
C'est magique, une histoire d'amour. C'est un truc magique, mais il ne faut pas demander à l'autre quel est ton truc, comment tu fais. Et dès qu'on essaie de savoir comment l'autre fait, hop, bah après...
On décortique et puis la magie, oui. Ça devient une mécanique.
Et voilà, quand on aime quelque chose, il faut surtout pas demander d'explication et connaître le truc. Et c'est vrai que c'est tentant. Quand un tour de magie est merveilleux, on a envie de savoir comment il a été fait, vous voyez. Mais une histoire d'amour, c'est un tour de magie, hein. C'est un tour de magie.
C'est magnifique comme description. D'ailleurs, vos films en sont l'illustration.
Oui, oui.
Mais vous savez, en revenant à cette vérité à laquelle personne ne croit, parce que tous les personnages disent quelque chose. Par exemple, lorsque le premier mari de Judith Traditzer lui demande combien de cadavres dans le prochain, et elle dit, mais peut-être vous. Lorsque le personnage, le nègre de Judith Traditzer se déclare comme tel, personne ne le croit. Quand il dit, tout romancier n'est qu'un prédateur, alors qu'il y a déjà de plusieurs doubles ententes avec l'actualité qui se superpose. Et puis, quand il parle d'une victime comme une autre, il parle de l'humanité, finalement.
Bien sûr. Non, mais vous savez, je suis très content de tout ce que vous me dites. Vous avez bien vu ce qu'il y avait à voir et vous avez bien ressenti ce que j'ai essayé de faire passer. Parce que c'est un film à plusieurs lectures. C'est un film à plusieurs lectures et j'aime bien quand je tombe sur des gens qui sont allés au-delà de l'histoire d'amour. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que l'histoire d'amour, bon, c'est ce qu'il y a de plus facile dans ce film, mais... Il y a tous les mécanismes du mensonge, vous voyez. Donc, mais le mensonge est devenu aujourd'hui un élément très important dans le monde dans lequel nous vivons, et je dirais même qu'il rend plus de service que la vérité. Il a plus d'imagination, il est plus romantique, plus poétique, et puis il permet aux gens défavorisés d'exister. Je veux dire, les gens qui n'ont rien, s'ils n'avaient pas le mensonge à leur disposition, comment ils feraient ? Vous voyez ce que je veux dire ? La vérité, c'est un luxe de riche. Il faut être en bonne santé, beau, intelligent pour
n'avoir rien à cacher.
Pour n'avoir rien à cacher et se contenter de la vérité. Vous voyez ce que je veux dire ? Le mensonge permet aux gens les plus défavorisés. Et moi, le mensonge m'a rendu plus de service que la vérité. Il m'a permis de grandir, il m'a permis d'être un metteur en scène, il m'a permis de faire croire aux autres que j'avais du talent.
Je crois que vous l'avez prouvé depuis, Claude Lelouch.
Peut-être que le talent m'a rattrapé après, mais au départ, j'en étais pas sûr. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, j'ai commencé par faire croire aux gens que j'en avais. Donc, le mensonge m'a rendu de... Je cracherai jamais sur le mensonge. Le mensonge, c'est comme un prêt à la banque. Il faut le rembourser. Bon, c'est tout, avec les intérêts. Mais comment on ferait s'il n'y avait pas la possibilité d'emprunter ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est pour ça que ce film, et c'est presque un film qui fait l'apologie du mensonge et de ses vertus.
Mais ça me rappelle une réplique du roi Ludwig, le roi fou.
Oui.
Et à un moment donné, parce qu'il créait tous ces châteaux féeriques, toute cette fantaisie, tous ces fantasmes, tous ces paysages de rêve, etc. Et à un moment donné, son docteur, qui n'était pas, peut-être qu'il était psychiatre, mais il le suivait, il lui dit, mais enfin, pourquoi tout ça? Surtout que l'État était exsangue. Et il dit, mais les paysans ont besoin de ce rêve que nous incarnons. Ça me rappelle ce que vous me dites. Là, maintenant, nous sommes tous partie prenante du jeu, de la vie, qui est apparence et réalité, perception et vérité, et puis tout ce qui se greffe dessus. Par exemple, les identités changent, les destins sont croisés. Moi, l'idée de destin croisé, le point où ils se rencontrent, d'intersection, c'est quelque chose de magique, comme vous le dites.
Oui, mais c'est
mais c'est guidé de quelque part.
Une histoire d'amour, c'est la réussite d'une synchronicité. C'est un véritable miracle, quoi. C'est un véritable miracle d'arriver à synchroniser, à un moment donné, deux personnes. Bon, alors, ce qui est dur, c'est de maintenir cette synchronicité. La synchronicité, c'est déjà un miracle, mais le plus dur, après, c'est qu'il n'y en ait pas un des deux qui rattrape l'autre ou qui le devance.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Thank you. Ça, c'est vraiment toi, une chanson de téléphone, une chanson qui date, accrochez-vous bien, de 1982. Les plus anciens d'entre nous, hein, je vais dire, pas d'entre vous, mais d'entre nous, se rappelleront cette époque du punk et du rock français. Donc 1982, ça, c'est vraiment toi. Et c'était, bien entendu, téléphone. C'est la fin de notre programme, merci de l'avoir écouté. Un prochain rendez-vous, c'est donc demain à 13h avec notre émission en français, bien entendu, et sur notre site internet sbs.com.au/french. Je vous rappelle l'horaire de nos programmations dans la semaine, mardi et jeudi à 13h également. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À demain.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.